Personne est une série de bande dessinée qui a vu le jour en 2000. Ça met en scène un chat détective privé, il s'appelle John Black Sad, et il évolue dans une Amérique des années 50 à l'ambiance d'un polar noir. C'est une série qui a quand même un grand succès, tant par la critique que par le public. Le public le suit depuis le début. Et le succès s'est confirmé cet été avec un Harvey Award et deux Eisner Award, deux grands prix américains. Alors, un Harvey pour le meilleur album étranger pour le Black Sad volume 4, un Eisner Award pour le même prix, le meilleur album pour Black Sad volume 4 aussi, et pour le meilleur artiste, pour le meilleur dessinateur en couleur directe. Alors, Juanro Guarnido, qu'est-ce que ça fait ?
Ça fait plaisir. Surtout, ça fait plaisir. Et d'avoir percé quand même dans le marché américain qui n'est pas facile pour les auteurs européens, oui, ça fait d'autant plus plaisir.
J'imagine. Avant de parler de Black Sad, je voulais vous demander quel était votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à travailler sur Black Sad ?
Oula, je remonte à où ?
Au tout début.
Au tout début. J'avais 4 ans et mon père m'a assis au dernier. Il était un stit. Je suis sérieux, je commence par le début. Mon père qui était un stit m'a assis au dernier pupitre de sa classe. C'était des enfants de CM2, je pense, enfin au début de collège. Et il m'a dit, dessine le village. J'avais 4 ans. J'ai dessiné le village. J'ai un ami du village qui est justement là. Et c'est étonnant. Mon père m'a fait dessiner le village en m'occultant le fait qu'il allait envoyer ce dessin à un concours. Bon, je ne le savais pas, j'avais 4 ans, je ne savais même pas ce que c'était qu'un concours. Mais quelques jours après, mon dessin est paru dans le journal. Un journal provincial ou départemental. Et du coup, je pense que mes parents se sont dit qu'il y avait une carrière à faire dans le dessin. C'était un dessin, je précise, c'était un dessin de gamin de 4 ans. C'était rien d'extraordinaire là-dedans, si ce n'est qu'on reconnaissait vraiment le village. On reconnaissait l'église, les palmiers, la bibliothèque en haut de la colline, la mer à côté, la nationale, où les voitures se mélangeaient à des mules chargées. Bref. Mais je pense que mes parents ont vu que voilà, qu'il y avait quelque chose à encourager chez moi. Ils l'ont fait et voilà, j'ai continué. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours eu du papier et de quoi dessiner à la maison. J'ai poursuivi en m'intéressant à la BD, puis j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai commencé à travailler dans le dessin animé. J'ai été embauché par les studios Disney de Montreuil, où j'ai travaillé notamment sur Hercule, Tarzan, Le Bossu de Notre-Dame et Atlantide, entre autres projets. J'ai en même temps commencé à développer les premiers storyboards et les premières recherches pour Black Sad. Et le premier album de Black Sad est paru alors que j'étais encore embauché et travaillais à plein temps chez Disney. Bon, non seulement il est paru, mais en plus, il a fallu que je le fasse en étant embauché à plein temps chez Disney. Donc je le faisais le soir et le week-end. C'était pas facile. Et puis pourtant, j'ai survécu et l'album est sorti. Le deuxième est sorti par la suite alors que j'étais encore chez Disney. Puis le studio de Montreuil a fermé. Et du coup, j'ai pu me consacrer entièrement à la BD. C'est là qu'en plus du troisième Black Sad, j'ai commencé à développer la série Sorcellerie, que sûrement personne d'entre vous connaît. Ou peut-être que si, je ne sais pas. Elle est moins connue que Black Sad, en tout cas. Puis j'ai collaboré aussi sur la série Collectif Voyageurs. Voilà. Je pense que j'arrive. Et on arrive direct à Mario, ce dernier tome de Black Sad.
Et comment vous avez rencontré Juan Díaz-Canales, votre scénariste ?
Quand j'ai fini les Beaux-Arts, je suis allé à Madrid. Un ancien copain de fanzine m'a appelé parce qu'il travaillait dans un studio de Madrid qui faisait du dessin animé et sous-traitait du travail pour le studio de Montreuil, justement le studio de Disney de Montreuil où j'ai fini, où j'ai fini par être embauché aussi. 2 ans, 3 ans plus tard. Donc à ce moment-là, voilà, j'avais jamais envisagé de travailler dans le dessin animé, mais j'ai décidé de tenter ma chance parce qu'en BD, j'étais sûr que je ne gagnerais pas ma vie, dans le marché espagnol. Et d'autres sorties de travail, à part donner des cours de dessin en lycée, enfin de passer le concours pour devenir prof de dessin. Bon, c'était difficile, ça ne m'intéressait pas, ça ne me motivait pas plus que ça. Donc je suis allé à Madrid et on m'a invité à suivre une formation de 3 mois, financée par le bureau du chômage, etc., ce qui était intéressant. Du coup, on avait une formation professionnelle assez pointue, gratuite. Et on a été sélectionné, une équipe de 8 personnes, dont une bonne partie encore en reste en contact, et dont voilà, Juan Díaz-Canales, scénariste de Black Sad, Teresa Valero, sa femme, scénariste de Sorcellerie, et moi.
Très bien. J'aimerais savoir comment se déroule la création d'un épisode de Black Sad. Alors,
Alors.
Du scénario jusqu'à votre patte en dessin.
Disons que Juan Díaz, comme moi, nous avons continué de travailler dans le dessin animé. C'est notre métier. On est dessinateur de dessin animé à la base. Et le fait de travailler dans le dessin animé, de travailler dans une logique d'équipe, dans une logique où vous n'êtes pas, où vous mettez votre ego de côté pour répondre aux besoins d'une production qui vous dépasse, qui vous surpasse et qui est quand même voilà, dirigée par quelqu'un d'autre et où le critère n'est pas le vôtre. Moi, du coup, bon, ça apprend l'humilité et ça apprend aussi à travailler en équipe, à collaborer et à avoir le réflexe de montrer toujours son travail à vos collaborateurs, de soumettre son travail à quelqu'un d'autre pour validation. Ce n'est pas exactement le cas en bande dessinée. Mon dessin n'est pas censé être validé par le scénariste, ni le scénario n'est pas censé être validé par moi, mais bon, pour nous, c'est plus naturel que ça. C'est vraiment ça va de soi qu'on montre son travail à l'autre pour avoir ne serait-ce qu'un échange là-dessus. Et dès le premier moment, ça se passe comme ça. Dès que Juan commence à avoir une idée de scénario, dès le premier synopsis, dès le premier traitement où il y a juste un brouillon de l'histoire avec quelques personnages, tout ça, il va me montrer. Et à chaque étape, plus le scénario, l'histoire avance, plus elle est développée en séquence, plus. Des personnages sont précis, se profilent plus. À chaque étape, moi je vais avoir des textes, des choses que je pourrais lire et qu'on va commenter, sur lesquelles on va échanger, voilà, sur lesquelles on va travailler ensemble. De la même façon, moi je lui présente tous mes dessins, les moindres croquis, parce que même si lui en général il me fait pas de réflexion sur les dessins, déjà ça peut arriver, mais en plus. Parfois, il peut arriver, et c'est malheureusement arrivé, que j'interprète mal une intention du scénario, qu'une expression du personnage ne corresponde pas exactement à ce qu'il voulait dire, quoi, à son intention profonde. Même si, voilà, apparemment, il n'y a pas de quoi, voilà, il y a un échange entre les personnages, et un personnage sourit un peu, et du coup, ça peut être de trop. Ça a été le cas. Ça a été le cas, et moi, ne voulant pas comment dire, répéter cette erreur, à chaque fois, je lui demande, vas-y, à fond, sur les crayonnés, sur le moindre croquis, dis-moi, s'il y a quelque chose qui te dérange, s'il y a quelque chose, et notamment dans les que tout réponde aux vraies intentions, aux intentions premières du scénario.
La particularité de la série, c'est qu'elle met en scène des animaux anthropomorphes. Est-ce que, alors, l'espèce de chaque personnage reflète le caractère et le rôle qu'il a dans l'histoire. Qui choisit l'animal qui correspondra à tel ou tel protagoniste et comment vous le choisissez?
Alors, qui pensez-vous?
À qui je pense?
Qui pensez-vous qui décide?
Je pense que votre scénariste doit mettre une patte déjà dans la décision
Oui.
du personnage, mais est-ce que vous apportez quelque chose en plus?
Oui, mais un petit peu. À la base, dans le scénario, déjà, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, entre parenthèses, il y a marqué l'animal qui va le représenter. Mais il arrivait, j'utilise l'imparfait à bon escient, il arrivait que de plus en plus mon scénariste soit à court de casting, à court de personnage. Il ne sait plus quelle bestiole il va mettre, donc il se répétait un peu. Et du coup, je commençais à intervenir de plus en plus. Et je disais, bon, pour cet animal, plutôt, au lieu de un tel, ben, on fait un autre, on fait tel truc. Notamment, je vous raconte juste une anecdote, parce que ça peut être parlant. Il y avait, dans le troisième tome, vous savez qu'il y a un personnage de hibou et il y a un personnage de chouette à côté. Le personnage de chouette, c'est un professeur de médecine espagnol, d'ailleurs, il est espagnol, monsieur Otero. Et à un moment donné, un assassin va se tromper de victime et il va le tuer au lieu de tuer le hibou. Je disais, c'est originairement, ce personnage, c'était pas une chouette, c'était, je sais plus quel animal, c'était un animal un peu quelconque. Et je me suis permis de suggérer, écoute, si c'était une chouette, là, il y a deux, il y a un groupe de personnages, mais il y a deux qui sont scientifiques, tous les deux, et puis ça fait une espèce d'unité. Et puis, s'il y a une chouette et un hibou, c'est assez logique de penser que l'assassin a pu. En plus, il y a un échange de chapeaux qui termine de tromper l'assassin, mais du coup, voilà, s'il suit le personnage, il est tout à fait plausible, ça rend crédible le fait qu'il se trompe de victime en confondant la chouette et le hibou. Donc lui, il était très content de ce choix. Voilà, c'est un des cas de figure typique où dans le quatrième tome, le personnage de l'hippopotame est venu en dernier. Il a été, voilà, il n'était pas dans la première version du scénario. Et moi, j'étais ravi de le voir venir parce que je trouve que c'est une fantastique trouvaille dans ce. Il est hyper important dans l'histoire et il est jouissif. Il a été jouissif à dessiner. Et son rôle est fantastique. Tout, il est inspiré de Quinlan dans La Soif du Mal d'Orson Welles. C'est le personnage joué par le propre Orson Welles dans ce film. Le flic verru, il transpire tout le temps, dégueulasse, méchant et tout. Et donc cet hippopotame, lui, d'abord, il me dit, ça pourrait être une loutre obèse. Je dis, une loutre obèse, ça équivaut à une phoque, à un phoque. Voilà, ça va faire une otarie, comme le producteur au cinéma du premier tome. Donc voilà, ça fait un personnage répété. Mais tant qu'à faire, on a un personnage gros, obèse. Allez, on y va, un hippopotame. Et lui, tout de suite, il était convaincu. Donc voilà. Et là, par contre, l'imparfait. Dans ce dernier tome, il m'a fait un casting tellement impeccable du début à la fin que j'ai pas eu le moindre commentaire. Juste pour le monsieur loyal, il m'a donné le roi entre un le roi. Oh là, il m'a donné le choix entre un lion et un éléphant. Et ben déjà, qu'il y ait un éléphant dans le cirque, ça semblait très très opportun. Et puis lion, ben non, parce qu'il y avait le jeune lion Tchad dans le même épisode. Donc voilà, ça a été. Mais par exemple, il arrive aussi dans des animaux comme ça. Qu'on ait un doute parce qu'on veut pas on veut pas les utiliser à les sous-employer. Un animal comme un éléphant, c'est imposant, c'est important, ça requiert beaucoup de travail de recherche. Je dis, pour un petit rôle, peut-être qu'on devrait se réserver l'éléphant pour plus tard, pour un rôle plus important. Mais c'est pas grave parce que la prochaine fois, ce sera un éléphant africain. Voilà.
Justement, on parlait de ce dernier opus. Ça commence par un Black Sad assez fatigué et touché par ce qu'il a vécu à la Nouvelle-Orléans. C'est vrai que vous l'avez quand même malmené, hein, après avoir enquêté sur le meurtre de son premier amour, sur une organisation raciste qu'on peut comparer au Ku Klux Klan, sur une machination autour de la bombe atomique, et l'avant-dernier sur un héroïnomane dans les bas-fonds de la Nouvelle-Orléans. Là, on retrouve Black Sad dans un épisode un peu plus solaire. Vous avez voulu le faire souffler un peu?
Ah non, la preuve est que tout de suite, on le refout dans les emmerdes, mais rapidement, quoi. Il y croit pendant 1 minute quand il se retrouve au volant de la belle décapotable, voilà, à traverser, à faire du riding sur les autoroutes. Non, 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 c'est trop facile. Voilà, on reste assez sadique avec notre personnage. Et donc, de toute façon, c'est la nature du polar, quoi. Pour moi, c'est ce que je disais à quelqu'un d'autre. C'est un polar déguisé en faux polar. Parce que, oui, c'est un voyage initiatique, c'est un récit de voyage, un road movie en BD, si on veut. Mais ça reste un polar à la base. Et il va y avoir un crime très rapidement. Il va y avoir un deuxième crime qui va encore précipiter des choses. Donc voilà, Black Sad, même si au départ il n'est pas impliqué directement dans ces meurtres, il va s'y trouver mêlé. De toute façon, effectivement, la progression lumineuse, on va dire, des épisodes de Black Sabbath. C'est venu un peu naturellement quand on l'a déplacé en Louisiane. Du coup, c'est une ambiance de ville, mais la Nouvelle-Orléans, c'est pas une ville comme New York. L'ambiance est très différente. Et ici, du moment où on allait le lancer dans le voyage à travers le Midwest américain, voilà, à partir de ce moment-là, c'était clair qu'on allait avoir des ambiances de paysage, chose qui ne s'est pas vue avant dans Black Sabbath, que ça allait être beaucoup plus lumineux, qu'il y aurait d'autres. Une approche différente à avoir pour ce tome-là. Mais bon, cela dit, bon, ça fait un peu parenthèse, j'insiste, fausse parenthèse, dans les aventures de Black Sabbath. Et pour le prochain tome, de toute façon, on revient vers quelque chose de très polar, de plus urbain, de très noir et de très glauque. Donc soyez pas déçus, ça revient.
Oui, effectivement, on voit Black Sabbath arpenter la route 66, ça fait vraiment road trip. Un peu à la Easy Rider, d'ailleurs, on le voit sur sa Harley. D'ailleurs, dans cet épisode, il va courir après un jeune lion qui s'appelle Chad Lowell, qui ressemble étrangement à Jack Kerouac. Et on voit aussi deux de ses acolytes qui sont... Alors, le premier, c'est un bison qui s'appelle Abraham Greenberg et un flamant rose qui s'appelle Billy Sorrows. On comprend finalement que ce sont des avatars de Ginsberg et de Burroughs. Donc, on est en pleine Beat Generation. Est-ce que vous avez eu plaisir à rentrer dans cet univers?
Oui, quand même. C'était à la base une envie du scénariste qui, déjà, dès une première version de ce scénario qui était très, très différente, avait voulu pourtant parler de cette Beat Generation et de ces écrivains maudits. Je pense qu'il les a peints avec... une certaine admiration, mais sans complaisance en même temps. Voilà, on reconnaît leur talent, on est fasciné par leur... Moi, personnellement, je suis fasciné par leur pulsion créatrice, un peu, qui, par moments, et selon les cas, ça devient assez autodestructrice aussi. Mais bon, il y a une inspiration directe de ces personnages sur les trois personnages d'écrivains de Amarillo. C'est clair, ça nous semblait important, c'est encore un repère historique par rapport aux aventures de Black Sabbath, qui c'est de l'animalier, mais ça se passe dans les années 50. Quelles années 50, de quoi vous me parlez? Ben voilà, nous, c'est en réalité c'est les mêmes années 50. Il y a une des années 50 parallèles, animalier. Il y a une chasse aux sorcières, il y a cette génération des beatniks, il y a toutes ces choses qui sont des repères historiques et qui finalement, comme tout le reste, comme le fait animalier en lui-même, ce n'est qu'une caricature, ce n'est qu'un reflet de la vie humaine.
Le personnage du bison Greenberg est déjà apparu en fait dans le volume 3 qui s'appelle Âme Rouge. Est-ce que le scénariste Juan Diaz-Canales avait déjà prévu finalement de le réutiliser, de le mettre dans une aventure dans cet univers beatnik?
Non, je pense pas. Je pense pas qu'il l'avait prévu dès le départ, mais ça lui semblait très très opportun. Voilà, il y a un certain intérêt pour la Beat Generation, du fait que dans le troisième tome, dans ce groupe des intellectuels, il y a ce poète lunatique appelé Abraham Greenberg, voilà, bien sûr, reflet de Allen Ginsberg, et qui récite son célèbre poème, un peu le hymne de la génération Beat. Mais je pense pas qu'il avait prévu de le réutiliser. De toute façon, on ne s'interdit rien dans cette série. Comme vous voyez, on plante des petites choses. Disons que ce personnage aurait pu être planté intentionnellement et dans le troisième temps pour le réutiliser plus tard. Ça pourrait être le cas, comme pour beaucoup d'autres choses, d'autres détails qu'on apporte petit à petit et au compte-gouttes sur la vie de Black Sabbath, sur qui il est, sur ce qu'il a vécu, sur quel est son passé, quelle est sa famille, quelles sont ses origines, d'où il vient, où il va. On le distille vraiment au compte-gouttes parce que déjà parce qu'on aime tenir le public en haleine, et nous-mêmes aussi dans le scénario, J'espère que vous avez lu le cinquième tome pour la plupart d'entre vous. Bon, je vous spoil rien d'important, mais à un moment donné, il y a un échange. Blacksad va retrouver sa sœur à un moment donné, et il y a un échange très intrigant entre eux à propos de leur père. Et le scénariste me disait dans le scénario, et voilà, et ça reste là, on n'en sait plus rien, les lecteurs, ils restent abasourdis, et nous aussi. Donc voilà, nous aussi, on reste avec voilà, avec l'envie d'en savoir plus, nous pique, mais voilà, on partage cette envie avec les lecteurs.
Mais vous savez si Juan Díaz-Canales sait où il va justement
Non.
sur les petites touches qu'il nous donne
Non,
sur
non.
un grand-père photographe, son père qui... Alors c'est vrai qu'ils en parlent, mais on sent qu'il est plus ou moins absent. Vous ne savez pas, vous n'en savez pas plus que nous
Moi,
finalement.
je ne sais rien et je pense que lui non plus. Enfin,
D'accord.
lui. Non, non, mais sérieusement, je ne pense pas qu'il a prévu, construit, bâti un truc. Non, il lance des choses en attendant de, voilà, en attendant de pouvoir les développer. Et d'ailleurs, juste en donnant des petites pistes comme ça intéressantes, simplement le fait, moi, ça me faisait quelque chose de mettre en scène l'échange de Blacksad et sa sœur, et le fait de se poser cette question. Il y avait quelque chose, il y a quelque chose, rien, sans savoir, sans qu'il y ait de réponse apportée à la question, ni rien, rien que l'expression de chacun des deux. À ce moment-là, c'était jouissif à mettre en scène. Je me dis, il y a énormément de choses à apporter, rien qu'à la posture, rien qu'à l'expression des personnages, rien qu'au body language, quand ils échangent ces phrases-là, il y a des choses à apporter, il y a des choses qui vont, qui narrativement vont pas, voilà, qui sont, il y a des choses à faire. On peut jouer sur ça pour accentuer ne serait-ce que le côté dramatique de cette inconnue.
Justement, dans ce cinquième volume, on en parlait tout à l'heure, il s'est beaucoup baladé sur la route 66. Alors, vous l'avez fait traverser donc de la Nouvelle-Orléans. Il est allé à Tulsa, en Oklahoma. Il est passé par Amarillo, au Texas, Santa Fe, Denver, Chicago. Bon, il a traversé tous ces États, toutes ces villes. Est-ce que vous êtes allé là-bas en repérage? Est-ce que votre scénariste et vous avez traversé toutes ces villes aussi?
Non, on n'a pas eu cette chance. J'aurais bien aimé parce que pour le précédent, j'étais allé à la Nouvelle-Orléans. Ça a été déterminant pour ma façon de dessiner ce volume-là. Ça a été vraiment très important. Je n'ai pas compris ce qu'était la Nouvelle-Orléans que quand j'y suis arrivé. Et en plus, en y arrivant, en descendant du taxi, j'ai compris, je me suis dit, ah, je m'étais gouré. Toutes mes recherches sur Internet, les reportages photos, les livres que j'ai pu avoir, ça ne m'a pas servi à grand-chose parce que je ne savais pas du tout ce que c'était que la Nouvelle-Orléans. Faut y débarquer pour le comprendre. C'est tout. C'est la distribution de la ville, l'atmosphère dans les rues, l'éclairage des rues la nuit, les quartiers, les différents quartiers, comment la ville a grandi. Mais vous pouvez encore voir la vieille carte de la ville sous-jacente. Vous pouvez la sentir quand vous y êtes. Et effectivement, ça a été déterminant. Je suis tombé amoureux de cette ville-là, comme rarement m'est arrivé avec une autre ville. Mais pour ce voyage, ça aurait été beaucoup plus compliqué de se faire tout le road trip et la route 66, ça aurait été très très plaisant. Mais c'était beaucoup plus compliqué. Je n'avais pas non plus le temps à ce moment-là. Ça aurait été compliqué non seulement d'y aller, mais de le programmer, de l'organiser. Et bon, en plus, il passe si fugacement par les endroits qu'il traverse, que bon, finalement, bon, c'était pas la documentation recueillie sur Internet et dans les bouquins a suffi.
Et New York, vous connaissiez New York, puisque c'est quand même la toile de fond des trois premiers.
Oui, New York, je connais bien, j'y étais plusieurs fois. Et j'ai pris, à chaque fois que j'y étais, j'ai mitraillé la ville de photos. La dernière fois, je crois que j'ai pris dans les 1500 photos. Comme à la Nouvelle-Orléans, d'ailleurs, à peu près la même chose. Sur New York, en plus, c'est d'autant plus jouissif que, pareil, tout comme souvent les villes américaines, les européennes aussi, vous me direz, mais j'ai l'impression que Il y a des parties des villes américaines qui sont restées indemnes. On dirait que dans certains quartiers ou à certains endroits, quand vous regardez d'un côté où vous n'avez aucun bâtiment moderne, vous vous sentez dans la ville d'autrefois. Vraiment, vous arrivez à voir dans votre esprit ce que c'était, quoi. Et il préserve assez bien tout ça. New York, j'ai eu l'expérience magnifique de prendre des bâtiments. Enfin, quand je prends des photos, les gratte-ciel plus modernes m'intéressent moins. Je m'intéresse surtout aux bâtiments qui ont l'air bien plus anciens. Et il m'est arrivé de retrouver des photos des mêmes bâtiments que j'avais photographiés dans des bouquins de reportages des années 30 et 40 par Feininger ou Bernice Abbott. Et le photographe se tenait dans un rayon de 5 mètres de l'endroit où j'avais pris ma photo. Donc ça, c'est quelque chose. Et le bâtiment n'avait pas changé d'un iota. Photo noir et blanc, photo couleur, c'était exactement la même.
Et la photo datait de quand?
Et c'était des photos des années 30,
Ouais.
aux années 40.
Le titre du cinquième volume, c'est Amarillo.
Mmh.
Qu'est-ce que vous avez caché derrière ce titre?
Amarillo, ça veut dire jaune en espagnol. Amarillo, c'est une ville du Texas où une partie de l'action de ce cinquième tome a lieu. Et voilà qui s'est fait appeler Amarillo, j'imagine, parce que justement la couleur jaune était dans les champs autour, et donc les colons espagnols l'ont baptisé comme ça. Le jaune, vous l'avez bien compris, c'est un leitmotiv dans tout l'album. Dans les albums précédents, il y avait déjà une succession de couleurs, et chaque couleur vertébrait un petit peu l'histoire en donnant une unité, un fil conducteur, parfois simplement une excuse esthétique, un parti pris. Sur ce tome, c'est encore plus présent que sur les autres, parce que ça va jusqu'au titre de l'histoire. Et puis ça se développe sur plein d'éléments de l'histoire, à commencer par la Cadillac, c'est une Eldorado, bien entendu. Jaune, il y a d'autres éléments. Le cirque, c'est le Sunflower, donc le tournesol, qui a un grand chapitre. Le grand chapiteau, il est jaune aussi. Il y a d'autres éléments jaunes importants dans l'histoire, un peu éparpillés dans les pages. Et effectivement, ça, c'était plus. C'est plus qu'un simple motif ou un parti pris esthétique, et finalement, à un moment donné, ça devient une composante narrative.
Et entre les deux protagonistes, donc Chad et son ami Greenberg, il y a aussi une histoire de jalousie et de trahison. Donc le jaune, je pense, traduit la trahison.
J'avais oublié ça parce que justement, il y a, je pense, la trahison et même l'envie aussi, la jalousie. Je crois que c'est le jaune et la couleur de la jalousie aussi. Tout ça était dans l'idée première de Juan en développant l'histoire. Il voulait que ce soit une histoire de jalousie entre deux écrivains, et pour lui, c'était important que ce soit deux écrivains de la génération beat.
Bon, sinon, la musique fait partie intégrante de cette série Black Sad. Vous nous avez bercé avec du Bessie Smith, avec du Ella Fitzgerald, avec du Billie Holiday. Bon, cette fois, c'est Nat King Cole qui nous berce dans cet album.
Amélie, vous avez bien fait votre travail,
Ouais,
hein.
vous avez vu, j'ai bossé.
Jusqu'à Bessie Smith, parce que moi, pendant longtemps, j'ai pas su que le Cemetery Blues c'était chanté par Bessie Smith.
Bon, je l'ai.
Maintenant, je l'ai, mais quand j'ai dessiné le premier tome, je ne le savais pas.
Non, je dis merci à Internet quand même, j'ai bossé. Bon, en fait, on a une vraie bande originale hein, à chaque fois dans Black Sad. Qu'est-ce que vous écoutez, vous, quand vous dessinez?
De tout, sauf du rap, excusez-moi, pour les fans de rap, mais le rap m'insupporte. Ça me, je peux pas. C'est viscéral. Bon, il y a des comment on dit, la variété non plus, c'est pas mon truc, mais j'écoute du rock, j'écoute du jazz vocal, du blues, un peu de pop, de la musique classique, du baroque, de l'opéra baroque, des comédies musicales de Broadway, je suis super fan, du métal, ça, je mets à la fin parce que c'est mon premier amour, le métal, voilà, je suis un métalleux dans l'âme et je le reste. Et un peu de tout. Mais c'est vrai que dans Black Sad, ça me parle beaucoup. Toute la musique qui est dans la bande de son, c'est une vraie bande de son dans Black Sad, et me parle profondément. Pas dans le premier temps, mais c'était juste. En plus, c'était presque une. Pas un artifice, mais bon, c'était presque un clin d'œil. Voilà, on met un blues et on s'était dit à chaque album, on mettra un blues, on mettra des paroles d'un blues ou d'une chanson. Et ça a pris de l'importance. Je trouve que dans le troisième tome, pour ceux qui le connaissaient bien, vous voyez la chanson d'Ella Fitzgerald qui est, enfin pas d'Ella Fitzgerald, de Johnny Mercer, qui est chantée par Ella Fitzgerald, soi-disant dans l'album. Et elle est d'une importance vitale. Et pourtant, elle est arrivée très tard dans le scénario. Elle n'était pas. Elle est arrivée très tard. Voilà, c'est ça. Elle n'était pas incluse dans le scénario original. Et à un moment donné, on a voulu, en voulant renforcer le moment intime entre Black Sad et Alma, que Juan il a incorporé cette chanson qui était tellement chargée de sens, c'était terrible pour moi. Ça a été ces planches-là étaient un peu vides, du coup elles sont devenues baroques, mais baroques mais le sens littérature baroque, dans le sens conceptiste, c'est-à-dire dans le sens hyper chargé de sens, d'une densité de fond, pas de forme mais de fond, terrible, parce que voilà, la chanson du coup c'est une chanson d'amour. Toutes les paroles de la chanson parle de eux et de leur rapport, et du coup ça parle de superstition, et elle lui dit finalement tu vas être superstitieux, et lui répond qu'il peut faire d'autre, un pauvre vieux chat noir comme moi. Donc c'était vraiment tellement bienvenu. En lisant ça, je me dis mais comment il a fait, quoi. Et limite dans le scénario, c'est un ajout de dernière minute. À partir de là, je comprends. Bon, déjà dans le premier tome avec la chanson de Billie Holiday, la chose devenait très chargée de sens, mais avec le troisième, plus au-delà, il est allé au-delà de ça, il est allé jusqu'à incorporer de plein fouet la chanson dans la narration, vraiment l'aspect narratif de la chanson, se s'imbriquer dans l'histoire, mais d'une façon terrible, quoi. Moi, j'avoue que j'ai rarement vu ça. Je pense que c'est un énorme mérite de la part de mon scénariste. Peu d'autres scénaristes l'ont réussi comme ça.
Oui, tout à fait. Et sincèrement et personnellement, moi, j'attends à chaque épisode de Black Sad, j'attends de voir quelle est la chanson qui est mise en scène. Ça apporte vraiment quelque chose. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, pardon. bon, bref. Voilà, excusez-moi. On passe à autre chose. Il y a une case dans le dernier Black Sad où un des policiers est en train de se marrer devant un magazine Mad avec Harvey Kurtzman.
C'est notre hommage à Harvey Kurtzman, puisqu'on nous a donné le prix Harvey. Le prix Harvey, c'est pour Kurtzman. Ouais. Donc voilà, c'était notre hommage à Kurtzman.
D'accord.
Bien ciblé.
Ça a été une influence pour vous ou pas ? Et j'en viens à la question, quelles sont vos influences à vous ? Quels sont vos auteurs, vos dessinateurs qui vous ont bercé, qui vous ont influencé ?
Il y en a tout plein, hein, il y en a plein. Kurtzman, c'est pas spécialement une de mes grandes influences, même si j'admire le bonhomme, mais j'avoue ne pas être un grand connaisseur de Mad, de la bande de Mad. Celui qui m'a toujours intéressé le plus, c'était Jack Davis, son graphisme éblouissant et baroque, et voilà, sa capacité à faire des masses de personnages qui courent ou qui s'entremêlent ou se bousculent les uns les autres. Ce que j'ai fait ce que j'ai repris dans certaines illustrations pour Sorcellerie notamment, qui sont presque des hommages à Jack Davis. Après, influence, il y en a énormément.
Oui, je sais, c'est une question assez difficile.
Ah, oh, méchante. Hein. Non, mais ça va loin parce que ça vient. Ça, bien sûr, ça ne se restreint pas à la bande dessinée. Ça vient des dessins animés. Ça vient, après, en grandissant, il y a énormément de choses de la peinture et même du cinéma qui ont été déterminantes pour ma façon d'entendre l'image. Le fait de travailler chez Disney, de travailler dans plusieurs départements, et notamment dans le département du layout, où on fait le croquis de la scène et on dessine le décor On approfondit le traitement de la perspective, de la composition de la scène, et surtout de la composition et aussi de l'éclairage. Tout ça, sont des éléments, sont des influences importantes qui sont venues. Ça vient de beaucoup de terrains. Voilà. Mais en illustration, à part l'illustration et le dessin animé qui m'ont énormément influé en bande dessinée, effectivement, j'étais pas des maîtres parce qu'on peut pas les, je sais pas si on peut les reconnaître dans mon dessin ou pas. En tout cas, moi, je suis sûr de pas leur faire honneur. Mais bon, bien sûr, mais j'ai toujours eu une énorme, énorme admiration pour Uderzo, qui pour moi, qui a été une ma plus grosse claque, étant petit, d'enfance, c'était la plus grosse claque au niveau du dessin. Et puis plus tard, par Moebius, Giraud, mais plus Moebius que Giraud, étonnamment. Je l'ai découvert, c'était une BD pour adultes que je découvrais assez jeune. Et bon, après, il y a énormément de dessinateurs. Il y a André Juillard, il y a Romita, Sienkiewicz, Mazzucchelli, il y a Loisel, bien entendu, énormément d'autres dessinateurs, même des dessinateurs de ma génération ou un peu plus vieux comme Christian Rossi, Bonhomme, Luigi Critton, d'autres dessinateurs américains plus modernes, des grands illustrateurs classiques. Je remonte jusqu'à Max Villeparisis ou Norman Rockwell, mais bon, ça va au-delà et je m'intéresse beaucoup à des illustrateurs américains de la première moitié du XXe siècle parce qu'ils avaient une aisance avec les techniques picturales. Ils faisaient des illustrations pour ce qu'on appelle comment ça s'appelle, des soft covers, enfin des paperback, ouais, non, c'est pas paper. Pardon, je ne sais plus. Enfin, les nouvelles, les romans de gare, il y avait des illustrations à la gouache ou des illustrations illustrées, les couvertures ou des articles ou des fictions dans des magazines. Et c'était des gens qui avaient une aisance avec leur technique picturale. Notamment, il y a ma plus grande influence dans ce terrain-là, c'est un illustrateur qui s'appelle Earl Oliver Hurst, qui a déterminé un petit peu le look entier de l'illustration stylisée dans les années 30 et 40. Il a énormément influé les dessinateurs de Disney. Et puis, bien entendu, les dessinateurs de Disney, et notamment des grands films Disney, cette équipe mortifère, ce qu'on a appelé les Nine Old Men, les neuf vieux. Le Nine Old Men, c'était voilà les plus grands animateurs de Disney qui ont façonné cet art fabuleux qui l'ont mené à son sommet en insufflant de la vraie vie à des dessins, quoi. Chose qui est quand même sidérante, chose qu'on a rarement vue depuis. Et je m'hydrate.
Et je vais ouvrir.
Et c'est gentil.
Et je ne sais pas l'ouvrir avec
Et
ça.
C'est pas grave. Excusez.
Désolée.
Alors, on va faire avec ça.
Oui, très bien. Bon, j'en profite pour vous poser une avant-dernière question. Est-ce qu'il est prévu ou est-ce que vous avez envie, avec Juan Díaz-Canales, de faire une prochaine aventure de Black Sad en plusieurs volumes?
Oh, mais vous trichez là.
Pourquoi je triche?
Effectivement, le sixième et septième volume de Black Sad seront une aventure en deux volumes, une aventure en deux tomes. On a envie d'écrire une histoire plus longue, plus touffue, et donc on a eu cette idée de pouvoir développer une enquête sur 108 pages au lieu de 54. Ça nous disait bien. Et voilà, du coup, on pourra un peu compenser nos lecteurs de l'attente à chaque fois entre albums qui est allée jusqu'à 5 ans. Voilà, c'était un peu. C'était limite à faire devenir Black Sad une Arlésienne, ce qu'on voulait surtout pas. Mais voilà, du coup, on a décidé que pour les prochains tomes, allez, on avait ça en tête depuis un moment, on a attendu le bon moment, le 6 et le 7, oui, c'est bon, voilà, on aura clos un cycle, le cycle des couleurs, si on veut, où on a traité, voilà, on a eu les leitmotifs des couleurs noir, blanc, puis les trois couleurs primaires. On dit qu'on clôt un cycle, on revient. Black Sad est parti en voyage, est parti très loin, il revient de loin, et puis du coup, voilà, on revient sur des enquêtes polar plus classiques, noir, dur, glauque, et une aventure en deux épisodes.
Qui se passera à New York?
Qui se passera à New York,
Très bien.
en milieu urbain, et avec une ambiance très très glauque pour laquelle on a déjà une idée, mais je ne vous la dirai pas.
Est-ce que vous avez des projets ou des envies pour la suite en dehors de Black Sad et Sorcellerie, des projets avec Juan Díaz-Canales ou vous tout seul ou avec un autre scénariste?
Notamment, bon, avec Juan Díaz, depuis longtemps, on a envie de faire autre chose que Black Sad, mais on n'a jamais concrétisé ça, on ne l'a pas mis en œuvre. Disons que c'est pas venu. J'ai alterné avec. Voilà, à la limite, je l'ai trompé avec sa propre femme, puisque elle m'a donné. Je lui ai demandé un scénario pour enfance, c'est sa femme qui m'a répondu. J'ai dit, ah ben, je bosse avec ta femme maintenant. Hein. Écoute, c'est toi qui me l'as envoyé. Donc, voilà, ça. Il y a une envie de faire autre chose, rien, ne serait-ce que pour le plaisir et le fun de se dire, ah, on fait une chose différente de Black Sad. Mais pour l'instant, ça n'a pas été. Voilà, c'est pas venu, ça n'a pas été possible, ni on n'a pas eu d'idée particulière non plus. En même temps, bah voilà, je me suis un peu écarté en faisant d'autres choses comme voyageur, et notamment j'ai un projet pour un album prochain qui sera normalement c'est mon prochain album de BD à sortir, sortira avant les prochains Black Sad. Qui est déjà, voilà, pas encore en chantier, mais bon, on le développe avec un scénariste français dont je tairai le nom pour l'instant. Mais c'est un grand, grand, grand scénariste français, un de mes préférés. On a une idée qui nous plaît beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on peut faire, on est convaincu de pouvoir faire un très bel album, un album dont on sera fier et qui plaira beaucoup aux lecteurs, on l'espère. Ambitieux aussi, mais voilà, un grand one shot, 80-90 pages en couleur directe, histoire de ne pas décevoir les fans de Black Sad, dont certains ont été déçus par Sorcellerie parce que c'était de l'humour, c'était pas le même style. Bon, bref, mais bon, là, on n'est pas du tout dans un univers similaire à Black Sad, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un genre complètement différent. Mais on pense que cet album va. Bon, c'est un beau projet qui nous enthousiasme tous les deux. Sinon, avant d'entamer ce projet, j'ai compris à un moment donné que c'était le moment ou jamais de répondre à une autre envie que j'avais, que c'était de refaire du dessin animé. Depuis quelque temps, j'avais envie de refaire du dessin animé, mais je me disais que je ne pourrais plus travailler dans une grosse production avec une grosse pour une grosse maison du style Disney ou DreamWorks, même si le travail est intéressant, mais il y a un côté très laborieux et parfois ingrat dans le dessin animé que je n'avais plus envie d'éprouver. J'avais plus envie de faire mon truc, mon bébé en dessin animé. J'ai une idée. Je l'ai étudiée, je l'ai développée, j'ai commenté avec des amis, j'ai commencé à la développer, j'ai commencé à trouver des partenaires. J'ai parlé à des partenaires, voilà, ils ont à des responsables de studio, à des producteurs. J'ai plus ou moins mis en place une production. Et voilà. Et normalement, je devrais attaquer ce projet immédiatement, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent. Mais il faudra, et voilà, et donc en fonction de ça, je vais lancer un financement sur internet. Je voulais pas le faire, mais j'ai parlé avec des amis qui font ça, qui connaissent ce domaine, et qui m'ont dit, nous, on peut s'en occuper. Écoute, si on lance ça sur Kickstarter, moi, je ne veux pas donner d'informations sur le projet parce que je veux que ce soit une grosse surprise. Mais il me disait, si on annonce que voilà que c'est ton projet, un projet d'animation par le dessinateur de Blacksad, on est sûr d'avoir l'intérêt des gens. Et voilà, donc on va essayer de lancer ça, histoire de financer la collaboration, l'apport des équipes qu'il faudra, équipe technique. Moi, je ferai de l'animation 2D, mais il y aurait aussi de l'animation 3D dedans. Mais même si c'est un projet, c'est un très court métrage, c'est assez ambitieux dans le. Enfin, je suis comme toujours très ambitieux au niveau de l'esthétique et du look, du soin de l'image. Et j'espère que voilà qu'on pourra le faire et que ce sera apprécié par les gens.
Je suis sûre que nous tous ici présents, on y participera tous.
Oh, c'est bien.
Bon, j'ai la question de fin.
Voilà.
En quel animal vous dessineriez-vous?
Cette question, on me la pose souvent.
Ah mince! Je pensais être original.
Et je refuse toujours d'y
D'accord.
répondre. Parce que je pense qu'il y a de la. Voilà, on révèle de. Ça relève de l'intime. Je pense que si je disais dans quel animal je me vois, ça dirait comment je me vois moi-même. Et je ne fais pas partie de ces auteurs qui mettent, voilà, qui aiment, et que je respecte, que j'admire, qui me paraît très bien, mais qui, voilà, qui ont comme point de départ pour leur travail, leur propre expérience, leur propre vie, que ce soit leur tranche de vie ou leur histoire, leur trauma, leur vécu. Moi-même, des vagues éléments de mon expérience, de mon vécu, j'ai du mal à les incorporer au récit que je fais ou à mes dessins, juste par pudeur. Ça vient pas. J'en ai incorporé certains, mais ça de là. Voilà, après, j'ai même du mal à en parler. C'est des choses, des détails qui me parlent à moi, à la limite, parlent à un cercle restreint de personnes autour de moi. Ça peut parler à mon scénariste. Et c'est pas des private jokes, c'est des choses qui, pour moi, véhiculent des émotions et des idées, des souvenirs, du vécu. Mais que voilà que je ne serais pas capable d'exhiber,
Que
de
vous gardez pour
communiquer
vous.
dessus.
Eh bien, merci. Merci pour votre venue. Merci à Juan Roguarnido d'être venu. On est vraiment très, très heureux de l'avoir reçu.
Merci à Amélie d'avoir fait la modératrice
Bon.
si inspirée.
Ça vous a plu?
Ah, beaucoup.
Merci beaucoup.